Les jours saints, le magistral plan divin, par Roderick C. Meredith. Pourquoi la plupart des chrétiens observent-ils Noël, les Pâques et Halloween, alors qu'ils n'observent pas les fêtes ordonnées dans la Bible? Est-il important de fêter tel jour plutôt qu'un autre? Cela concerne-t-il notre espérance en la vie éternelle? Cela pourrait-il avoir un impact important sur notre compréhension de la nature du Dieu que nous adorons et du grand dessein qu'il est en train d'accomplir ici-bas? Table des matières, page 3, jour païen contre jour saint de Dieu. Page 15, étape 1, la Pâque. Page 20, étape 2, la fête des pains sans levain. Page 26, étape 3, la Pentecôte. Page 30, étape 4, la fête des trompettes. Page 34, étape 5, le jour des expiations. Page 38, étape 6, la fête des tabernacles. Page 42, étape 7, le dernier grand jour. Page 47, conclusion, obéir au plan divin. Édition 1.2, janvier 2015, copyright 2003, Living Church of God, tout droit réservé. The Holy Days, God's Master Plan, traduit de l'anglais sous la surveillance de Dibar appartient. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. Introduction. Jour païen contre jour saint de Dieu. Nous avons pour la plupart grandi dans une église protestante ou au sein du catholicisme et nous avons pris pour acquis les enseignements qui nous ont été enseignés au sujet de Dieu, du Christ et de la religion. Même arrivés à l'âge adulte, peu de gens, pourtant sincères et curieux d'apprendre, ont pris la peine de prouver pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Il est en effet plus aisé de suivre la foule que de s'interroger sur ce qui nous a été inculqué. Faites-vous partie de ce groupe? Avez-vous supposé sans preuve que la Bible enseigne l'observance de Noël et des Pâques? Avez-vous supposé que le Christ, notre exemple, ainsi que l'Église apostolique inspirée observait Noël et les Pâques? Si tel est votre cas, vous supposez à tort. En effet, presque tous les théologiens et les historiens honnêtes reconnaissent que Noël et les Pâques furent introduits dans le christianisme de nombreuses années après la mort des premiers apôtres. À l'article Noël, l'Encyclopédia Britannica déclare que, je cite, « Dans l'Église chrétienne, la fête de la nativité de Jésus-Christ, l'histoire de cette fête est tellement liée à celle de l'Épiphanie que ce qui suit doit être lu en rapport avec l'article qui traite de ce sujet. » La grande Église adopta Noël beaucoup plus tard que l'Épiphanie et avant le 5e siècle. Il n'y avait pas d'opinion consensuelle pour l'intercaler dans le calendrier. Soit le 6 janvier, soit le 25 mars, soit le 25 décembre. En 1644, les puritains anglais firent interdire toute festivité ou service religieux par un acte du Parlement au motif qu'il s'agissait d'une fête païenne. Et ils ordonnèrent que ce jour fût jeûné. Charles II rétablit la fête, mais les Écossais adoptèrent le point de vue des puritains. Volume 6, 11e édition, pages 293 à 294, c'est nous qui traduisons tout au long de cette brochure. La Catholic Bible Encyclopedia écrit, je cite, « Noël ne faisait pas partie des fêtes originales de l'Église. Irénée et Tertullien ne la mentionnent pas sur leur liste des fêtes. Origène, visant peut-être le déshonorant Natalitia impérial, soutient que dans les Écritures, seuls les pécheurs, pas les saints, célébraient leurs anniversaires de naissance. En Angleterre, Noël fut interdit par acte du Parlement en 1644. Le jour devait être jeûné et ouvré. Les magasins devaient être obligatoirement ouverts. Les puddings et les quiches de viande émincée étaient condamnés en tant que mets païens. Les conservateurs résistèrent. À Canterbury, le sang coula. Mais après, les dissidents de la Restauration continuèrent à appeler la période de Noël la marée folle. Volume 3, pages 724 et 728. Le rejet de l'exemple du Christ et des apôtres. Pour essayer de comprendre, il est important de se rappeler que la grande majorité des prêtres et des érudits chrétiens n'ont pas scrupuleusement suivi l'exemple du Christ et des premiers apôtres. Alors que l'Église chrétienne se développait, de par l'Empire romain, ils essayèrent de rendre leur religion plus acceptable à l'égard des païens qui les entouraient, afin de tenter de les convaincre et d'éviter la persécution. Dr. Rufus M. Jones fait remarquer, je cite, « Si par hasard le Christ lui-même avait été pris comme modèle par des disciples venus plus tard et comme exemple d'une nouvelle voie, et qu'une tentative ait été sérieusement menée pour examiner sa vie et ses enseignements, afin d'établir le standard et la norme pour l'Église, le christianisme aurait été quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'il est advenu. Alors, contrairement à maintenant, l'hérésie aurait été la déviation de sa voie, de son enseignement, de son esprit, de son royaume. Ce que nous pouvons qualifier de christianisme galiléen, proprement dit, eut la vie courte, bien qu'il y ait eu des tentatives notables pour lui redonner vie et le maintenir, et qu'il y eut ici ou là des prophètes spirituels qui aient proclamé qu'à part cette simple religion galiléenne, tout le reste n'était que hérésie. Mais le courant historique principal qui prévalut avait pris une autre direction et avait mis l'accent sur autre chose de très différent. The Church Debt to Heretics, pages 15 et 16. Un autre auteur, issu du protestantisme traditionnel, Jaslimin Herbert, écrivant au sujet de la période comprise entre 313 et 476 après Jésus-Christ, admet cela. Je cite. Les coutumes et les cérémonies issues du paganisme se faufilèrent progressivement dans le culte. D'antiques fêtes païennes devinrent des fêtes de l'Église, en changeant de nom et de destination. Aux alentours de 405 après Jésus-Christ, des représentations des saints et des martyrs commencèrent à faire leur apparition dans les églises, tout d'abord comme mémoriaux, puis comme objets d'adoration et de vénération. The Story of the Christian Church, page 79. Ainsi, bien que les premiers dirigeants chrétiens étaient devenus tolérants vis-à-vis des païens qui les entouraient, Dieu avait prévenu nos ancêtres spirituels de ne pas suivre les coutumes païennes des autres nations en déclarant, je cite, « Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. » Deutéronome 12, au verset 30 à 31. Jésus-Christ avertit les dirigeants religieux de son époque. « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Marc 7, au verset 9. Notez bien ce commentaire de Jésus. Il s'applique tout particulièrement dans le contexte des jours que Dieu a déclarés saints. En effet, personne ne peut à la fois prétendre observer les fêtes introduites par les païens et les jours saints bibliques que Dieu ordonna et que l'Église apostolique respecta. Vous devez faire un choix. Vous devez choisir entre l'observance de Noël, qui dépeint le Christ comme un petit enfant sans défense, baignant dans un environnement rempli de concepts païens, comme la bûche de Noël, le sapin, Saint-Nicolas et le renne Rudolph au nez rouge, et l'observance des jours saints bibliques qui décrivent étape par étape le merveilleux plan que Dieu est en train de réaliser sur la terre. Vous devez choisir entre suivre le Christ et les premiers apôtres ou suivre les pères de l'Église catholique de l'âge des ténèbres qui étalèrent les unes après les autres des couches toujours plus épaisses de paganisme sur le christianisme. Quel sera votre choix ? Comme je l'ai expliqué dans notre brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?», si vous vous retrouviez sur une île déserte avec tout simplement un calendrier sacré et une Bible, vous ne pourriez observer que le sabbat biblique et les jours saints bibliques, car ils sont les seuls jours que la Bible ordonne d'observer et dont elle parle exclusivement. Par exemple, le mot Noël ne figure même pas dans la Bible. Il n'y a pas la moindre allusion concernant l'observance du jour anniversaire de la naissance du Christ, à supposer que nous en sachions la date exacte, qu'il est impossible à déterminer. Quant au mot « les Pâques », il ne figure dans aucune traduction valable de la Bible. En anglais, les Pâques correspondent au mot « Easter » et ne figurent à tort qu'une seule fois dans la version King James, dans Acte 12 au verset 4. Mais tous les érudits sont d'accord pour admettre que le mot original, Pacha, dont il est la traduction erronée, signifie la Pâque et n'a aucun rapport avec Easter. Pratiquement tous les érudits reconnaissent que le mot Easter n'est qu'une déformation du nom de l'ancienne déesse Ishtar ou Isis, la déesse de la sexualité et de la fertilité au Moyen-Orient. De cette origine viennent également les œufs de Pâques, qui font partie du culte païen voué à la sexualité et à la fertilité. Il est intéressant de noter que les jours saints divins, commandés par Dieu, sont clairement mentionnés dans la Bible, alors qu'ils ne sont pas enseignés à l'école du dimanche ou au catéchisme. Pourtant, ces jours sont ordonnés dans l'Ancien Testament et le fait que le Christ et les apôtres les aient observés dans le Nouveau Testament montre sans nul doute qu'ils sont toujours valables pour l'Église chrétienne. Luc nous dit, je cite, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. » Luc 2 au verset 40 et 41. Ensuite, le récit précise que, quand les jours furent écoulés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Verset 43. Tous les érudits reconnaissent que les jours dont il est fait mention, ici sont les jours des pains sans levain, qui suivent immédiatement la Pâque. Ainsi, quoique Jésus, rempli de sagesse, fut capable de discuter des principes spirituels au plus haut niveau, avec les docteurs de la loi, il imitait ses parents en observant les jours des pains sans levain. Nous constatons que Jésus, durant son ministère, observait la fête des tabernacles à Jérusalem. Il a dit à ses frères physiques, « Montez-vous à cette fête ?» Jean 7 au verset 8. Il est évident que le Fils de Dieu leur ordonnait d'observer la fête des tabernacles. Ensuite, lui-même, en personne, y monta secrètement afin de ne pas déclencher, avant terme, la persécution sur lui. Verset 10. Puis, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Verset 14. À la fin de la vie terrestre de Jésus, Luc nous dit, « Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Luc 22, versets 7 à 8 et 15. Ainsi, nous avons la preuve que Jésus, alors qu'il était adulte, observait encore la Pâque en nous laissant un exemple à suivre. Le Nouveau Testament relate que l'Église apostolique inspirée commença au cours d'un autre jour saint divin, la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui étaient assemblés. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2 au verset 1. Que serait-il arrivé si les disciples avaient rejeté l'observance des jours saint divins et s'ils n'avaient pas obéi à l'ordre de s'assembler en ce jour précis au cours duquel ils reçurent le Saint-Esprit? Certains pourraient dire que cette Pentecôte-là était la seule que l'Église primitive observa. Mais il n'en est rien. En effet, dans Acte 20 au verset 16, nous lisons « Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. » L'apôtre Paul observa également une autre Pentecôte à Éphèse. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. » 1 Corinthiens 16, au verset 8 à 9. L'apôtre Paul a également ordonné à l'église non-juive de Corinthe d'observer les jours des pains sans levain. À ce propos, il écrit, je cite, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » 1 Corinthiens 5, au verset 7 à 8. Il est évident que l'apôtre Paul disait ici de célébrer la fête des pains sans levain. Toutes les nations observeront les jours saints divins. Une grande prophétie des temps de la fin mentionne que toutes les nations apprendront bientôt à observer la fête des tabernacles. Notez ce que Dieu inspira au prophète Zacharie a écrit à propos des années qui sont juste devant nous. Je cite. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14 au verset 1 à 4 et Zacharie 14 au verset 16 à 19. Puisque tous les êtres humains de la terre apprendront à observer ces jours saints bibliques, pourquoi ne pas commencer à apprendre à obéir à Dieu et commencer à les célébrer dès à présent? Pourquoi ne pas devenir un pionnier spirituel et ouvrir la voie à des milliards d'autres personnes qui commenceront à comprendre lorsque le Christ reviendra? Mais diriez-vous, nous avons appris que ce sont des jours saints juifs. Les chrétiens doivent-ils célébrer des fêtes juives? Comme je viens de l'expliquer, toutes les nations, juives et non juives, apprendront bientôt à observer les jours saints bibliques. Non pas parce que ces jours sont juifs, mais parce que Dieu ordonne à tous ceux qui font partie de son peuple de les observer. L'Église du Nouveau Testament les a observés, les premiers apôtres également, et comme nous l'avons déjà vu, le Christ en personne les a célébrés en nous laissant un exemple. Les véritables chrétiens sont Israël de Dieu. Les paroles de Jésus à la femme samaritaine sont une clé importante de la compréhension s'adressant à cette femme non juive. Le Christ a dit, je cite, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jean 4, au verset 22. Quoique les Juifs aient, pour la plupart, rejeté les enseignements divins ou qu'ils les aient habillés d'un grand nombre de traditions humaines, ils avaient préservé la connaissance du Dieu Créateur et les seuls écrits bibliques disponibles pour les chrétiens du Nouveau Testament est cette partie de la Bible que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il est clair que les Juifs avaient reçu les oracles de Dieu, Romains 3 au verset 1 à 2, dont il est certain qu'ils incluaient les jours saints divins et la connaissance du système de calcul du calendrier sacré à partir duquel ces jours sont déterminés. C'est ainsi que les Juifs connaissaient ce qu'ils adoraient. À travers le Christ et la compréhension correcte de l'Ancien Testament, le salut venait des Juifs. Car, en dépit de leur esprit charnel et de leurs traditions humaines, les Juifs avaient préservé la loi spirituelle, les 10 commandements, le véritable sabbat et les jours saints annuels que notre Créateur avait ordonnés. En outre, c'est de la race juive que Jésus-Christ, le Messie prophétisé, est issu. Comme l'apôtre Paul l'écrivit sous l'inspiration divine, je cite, « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 2, au verset 28 et 29. Ainsi, tous les véritables chrétiens sont des juifs spirituels et sont tenus d'observer les lois spirituelles, ainsi que les jours saints que Dieu donna à Israël, et qui furent confirmés par l'exemple du Christ et de l'Église inspirée du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a aussi écrit, je cite, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Galates 6 au verset 15 à 16. Il est évident que l'Israël de Dieu est constitué du véritable peuple de Dieu, de ceux qui sont circoncis spirituellement et dont le Christ vit sa vie d'obéissance en eux par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ainsi, nous devons nous débarrasser de nos préjugés et cesser de considérer comme juifs toutes ces choses que Dieu a données à son peuple, à toutes les races et à toutes les nations. Les véritables chrétiens doivent respecter de manière sainte les jours que Dieu a rendus saints et suivre l'exemple de Jésus et des premiers apôtres. Puis, comme nous allons le voir, la compréhension et l'observance des jours saints divins ouvriront notre esprit sur le grand plan et le but que Dieu poursuit ici-bas. En effet, Dieu a planifié de grandes choses pour toute l'humanité. Il nous révèle cela dans l'une des lettres de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je cite « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. » De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1 au verset 9 à 11. Un aperçu du plan. La majorité de ceux qui se disent chrétiens observent ce qu'ils appellent le repas du Seigneur. La messe, l'Eucharistie ou d'autres pratiques similaires impliquant le partage du pain et du vin et symbolisant le sacrifice du Christ. Peu d'entre eux comprennent pourquoi ils font cela. Et, comme je viens de le signaler, ils ont plusieurs façons d'observer ce dont nous parlons, selon la branche du christianisme à laquelle ils adhèrent. Cette occasion est un mémorial qui n'est que la toute première étape du plan divin. Pour la majorité des prétendus chrétiens, toutes les autres phases du plan divin sont totalement mises de côté et sont, en conséquence, totalement incomprises. Dieu a un plan en 7 étapes, tout comme un certain nombre de choses révélées basées sur le chiffre 7. Dès le commencement, Dieu créa les 7 jours de la semaine, Genèse 1. Le 7e jour fut choisi par Dieu pour être son saint sabbat, Genèse 2 au verset 1 à 3. Plus tard, il donna 7 jours saints annuels pour révéler la totalité de son plan et son dessein, conçu pour l'humanité. Lévitique 23. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons la description des 7 églises de l'Apocalypse. Apocalypse 1 au verset 20 et Apocalypse 2 et 3. Nous pouvons lire qu'il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 derniers fléaux, etc. Car le chiffre 7 marque l'achèvement ou la perfection. En conséquence, lorsque nous comprenons, il semble ridicule de n'observer qu'une seule des fêtes divines annuelles, qui décrit une partie seulement de son plan, et d'omettre toutes les autres. Comme aperçu de ce que nous allons détailler, examinons brièvement les 7 fêtes divines annuelles, spirituelles, afin de mieux comprendre le plan et le dessein divin que ces fêtes représentent. Premièrement, nous célébrons solennellement les souffrances et la mort que le Christ subit à notre place. La Bible appelle cela la Pâque. Elle symbolise notre acceptation du corps brisé du Christ et de son sang versé qu'il offrit en tant que notre Sauveur. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit là que de la première étape du plan divin. Ensuite, nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. 2 Pierre 3 au verset 18. Et rejeter nos anciennes voies et nos habitudes pécheresses hors de notre vie. Ce processus qui nous oblige à vaincre est décrit par la fête des pains sans levain. Troisièmement, nous tous qui formons l'Église engendrée par l'Esprit, le petit troupeau, Luc 12 au verset 32, nous ne sommes que les prémices de la grande moisson spirituelle qui aura lieu après le second avènement du Christ. Ainsi, la troisième fête annuelle, la fête de la Pentecôte ou fête des prémices, montre qu'il n'y a qu'une très petite récolte spirituelle recueillie actuellement par Dieu. En réalité, Dieu n'est pas en train d'essayer de sauver le monde entier maintenant. Si tel était le cas, des milliards d'incroyants morts depuis longtemps, de même qu'un grand nombre d'autres qui vivent actuellement en Chine, en Inde et dans beaucoup d'autres pays, ne pourraient jamais connaître le véritable Dieu ni accepter son Fils comme leur Seigneur et Sauveur. Les événements des temps de la fin sont décrits dans le septième mois. Quatrièmement, la fête des trompettes, Lévitique 23 au verset 24, dépeint les événements cataclysmiques de la fin de cette ère et le retour du Christ sur la terre. Les trompettes étaient littéralement utilisées dans l'ancien Israël pour sonner l'alarme en cas de guerre. De nos jours, au point culminant d'une série de guerres et de bouleversements mondiaux, Jésus-Christ reviendra et il y aura une résurrection des morts à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15 au verset 51 et 52. Puis, immédiatement après le retour du Christ, Satan sera surnaturellement lié et jeté dans l'abîme, afin qu'il ne séduise plus les nations. Apocalypse 20, au verset 3. En fin de compte, lorsque Satan sera lié, les hommes pourront être réconciliés avec Dieu. C'est ce que décrit la cinquième fête spirituelle, le jour des expiations. Après le retour du Christ, Dieu répandra son esprit et commencera à éclairer l'humanité avec la véritable compréhension du grand plan divin. Parlant de cette époque, Dieu dit, je cite, « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Ésaïe 11, au verset 9. Cela représente notre joyeuse observance de la sixième fête du plan divin, la fête des tabernacles ou la fête de la moisson. Exode 34, au verset 22. Le calendrier des jours saints divins est basé sur les saisons des récoltes en Israël. Comme indiqué, cela nous décrit le plan des moissons divines. En premier, la petite récolte de printemps est symbolisée par la fête des prémices. Et, à la fin de cet âge, la grande récolte d'automne est symbolisée par la fête de la moisson. Maintenant, nous en arrivons à la septième et dernière fête spirituelle que Dieu donna à son peuple. Mais que manquait-il encore pour compléter ce plan ? Demanderez-vous. Comme cela a déjà été évoqué, à la fin du règne millénaire du Christ, il y aura encore des milliards d'individus morts auparavant qui, de leur vivant, n'ont jamais eu l'occasion de comprendre la moindre chose concernant le véritable Dieu, Jésus-Christ ou le dessein divin. Qu'arrivera-t-il à ces milliards d'êtres humains perdus ? Puisque devant Dieu, il n'y a point de favoritisme, Romains 2 au verset 11. La septième fête solennelle décrit l'époque au cours de laquelle Dieu, pour la première fois, ouvrira l'esprit de ces êtres humains afin qu'ils comprennent sa parole et qu'ils aient l'occasion d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 20, au verset 11 à 12. Avec l'observance de cette septième fête que nous appelons le dernier grand jour, Jean 7, au verset 37, nous avons une image complète du plan de notre Créateur. Ce plan commence dès le moment où nous acceptons le Christ comme notre Sauveur jusqu'à sa seconde venue. Et il se prolonge jusqu'au dernier grand jour lorsque tous les êtres humains auront une réelle occasion de salut. Les fêtes divines inspirées sont une image du plan réel de Dieu. Les fêtes religieuses païennes que Satan a introduites avec malice dans un monde séduit ne sont que des substituts dérisoires. En fait, elles célèbrent un faux Dieu, un faux Christ. Et elle nous pousse à accepter un faux évangile, en contradiction directe avec le véritable message que le Christ et les apôtres ont prêché. Ces sept fêtes, dont deux durent sept jours et cinq durent une seule journée, représentent un total de 19 jours de fêtes par an. Sur ces 19 jours, sept sont des jours de repos particuliers ou des sabbats. Ces sept sabbats annuels, que l'on nomme également les jours saints divins annuels, sont le premier et le dernier jour de la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, le premier jour de la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Comme nous allons l'étudier dans cette brochure, les jours saints divins représentent pour nous bien plus qu'une occasion d'interrompre nos activités normales quotidiennes et beaucoup plus que des jours fériés nationaux. D'autres jours fériés juifs, comme Hanouka et Pourim, jouent une part importante dans la vie civile de la nation juive, et certains juifs y sont attachés de nos jours. Cependant, ces jours civils ne sont pas des fêtes de l'Éternel, dont la liste complète se trouve dans Lévitique 23. Ce sont parfois des célébrations joyeuses, comme les festivités de Thanksgiving aux États-Unis et au Canada. Mais tout comme on ne peut obliger un citoyen britannique à célébrer le Thanksgiving canadien, on ne devrait pas contraindre un non-juif à observer un jour férié établi par l'État-nation d'Israël. De la même manière, Dieu n'ordonne pas d'observer ces jours fériés civils comme il ordonne d'observer les fêtes qui figurent dans Lévitique 23. À présent, reprenons et comprenons en détail la signification et le but de chacune des 7 fêtes religieuses nommées par Dieu à toutes. Données par Dieu à toute l'humanité. Souvenez-vous que la compréhension et l'observance de ces fêtes nous aident à nous souvenir du grand plan magistral de notre Créateur, au moyen duquel il désire éclairer et, en fin de compte, sauver la vaste majorité du genre humain. Étape numéro 1, la Pâque. Dieu décida de réaliser des créatures qui deviendraient réellement ses fils et ses filles, des êtres qui seraient directement issus de lui et qui posséderaient sa nature divine. 2 Pierre 1 au verset 4. Et son propre caractère placé en eux par le Saint-Esprit. Ces créatures devaient posséder un libre arbitre moral, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Elles devaient prouver, à travers une vie d'affermissement, qu'elles choisiraient toujours d'obéir à la voix divine, à se soumettre à Dieu, à le servir et à ne jamais se rebeller. En conséquence, Dieu décida qu'il créerait la race humaine à son image, possédant son aspect et sa ressemblance, ainsi que dotée de certaines dispositions, comme la faculté de penser, d'imaginer, de créer, de choisir librement, etc. Dieu avait décidé de permettre à l'humanité de pécher, sous l'influence de l'archange déchu Lucifer qui était devenu Satan, le diable. Dieu avait décidé d'autoriser les êtres humains à suivre leur propre voie durant les premières 6000 années de l'histoire humaine. Ils devaient écrire les leçons de leur vie à travers les expériences et la souffrance, quoique pour la plupart en demeurant incapables d'apprendre réellement ces leçons, jusqu'au moment où Dieu choisirait d'appeler surnaturellement chaque individu à comprendre et à se repentir. Jean 6 au verset 44. Or, comme Dieu avait décrété que le salaire du péché c'est la mort, Romains 6 au verset 23, il décida que seule la mort de son propre Fils, Jésus-Christ, pourrait pardonner les péchés. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1 au verset 4 et 7. Dieu avait dit à l'ancien Israël que la vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17 au verset 11. Ainsi, Dieu avait prévu que le sang de son propre Fils serait versé. Le Christ était destiné à devenir l'agneau pascal ultime, afin de réconcilier tous les véritables chrétiens avec Dieu le Père. Je cite, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens 5 au verset 7. Et encore, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5 au verset 9. Plusieurs semaines avant de descendre sur le mont Sinaï et avant même d'exposer les termes de l'ancienne alliance, Dieu avait dit au peuple d'Israël de mettre à part un agneau mâle sans défaut. Exode 12 au verset 3 à 6. Cet agneau était destiné à devenir l'agneau pascal et devait être sacrifié le soir du 14e jour du mois d'Abib, le premier mois du calendrier sacré divin de l'année. Dieu avait résolu d'exterminer tous les premiers-nés d'Égypte à cause du refus de Pharaon de laisser partir son peuple. Dans le même temps, il avait dit aux Israélites que s'ils lui obéissaient, s'ils sacrifiaient et mangeaient l'agneau pascal, aspergeant également de son sang les montants et le linteau de leurs portes d'entrée, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Versets 13 et 14. Ainsi, plus de 1400 ans à l'avance, Dieu guida toute une nation, quelques 3 millions d'âmes, pour annoncer l'incroyable sacrifice de son propre Fils, Jésus-Christ, qui par la suite allait payer l'amende à la place des hommes. Le sacrifice de l'agneau pascal représentait le sacrifice du Christ, la première étape du plan divin, destinée à permettre aux êtres humains de devenir ses véritables enfants. La Pâque montre que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Romains 3 au verset 24 et 25. Dieu ordonne à chaque véritable chrétien de célébrer la Pâque. Elle doit être observée une fois par an, comme Dieu l'a ordonné, la nuit durant laquelle Jésus fut livré pour être crucifié. L'apôtre Paul explique cela. Je cite, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 au verset 23 à 26. Lors de la célébration de la Pâque, les chrétiens se lavent les pieds les uns aux autres comme le Christ l'a recommandé. Jean 13 au verset 5 à 15. À l'époque, un serviteur lavait les pieds d'un visiteur qui se rendait chez son maître. En assumant le rôle d'un serviteur, Jésus donna l'exemple à tous ses serviteurs de s'humilier, nous démontrant que nous devons toujours servir dans une attitude d'amour réciproque les uns pour les autres, tout comme le Christ lui-même le fit. Ensuite vient le partage du pain. Cela décrit le corps du Christ brisé pour nous. 1 Corinthiens 11 au verset 24. La parole divine montre clairement que Jésus subit une terrible flagellation juste avant d'être crucifié. Les historiens disent que cette sorte de flagellation romaine était administrée avec les lanières de cuir d'un fouet, auxquelles étaient attachés des morceaux de métal coupant, destinés à couper et à déchirer la chair. À cause de la violence d'une telle flagellation et des hémorragies qui s'ensuivaient, beaucoup de condamnés succombaient avant même d'être crucifiés. Pourquoi Jésus fut-il contraint de subir cette effroyable flagellation ? Environ 700 ans avant cet événement, Dieu inspira le prophète Ésaïe à décrire ce qui arriverait au Christ ainsi que la raison de ses souffrances. Je cite, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53 au verset 4 et 5. Nous sommes guéris par la flagellation de Jésus. Il serait techniquement plus correct de traduire la phrase « ce sont nos souffrances qu'il a portées » par « ce sont nos maladies qu'il a portées ». Dans le Nouveau Testament, Matthieu indique que Jésus guérissait beaucoup de malades. Et pour montrer qu'il s'agissait de l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, il cite cette déclaration. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, au verset 16 à 17. C'est pourquoi, lorsque nous mangeons le pain brisé de la Pâque, nous renouvelons notre acceptation du corps brisé du Christ pour notre guérison physique. Mesurons pleinement les symboles importants du sacrifice de notre Sauveur avec une attitude de profonde humilité, de respect et de foi au Dieu suprême qui a rendu possible notre guérison physique et notre pardon spirituel. Ensuite, lors du service pascal, nous partageons le vin rouge qui symbolise le sang versé de Jésus-Christ en paiement de l'amende de nos péchés. Il est important de comprendre que le Christ est notre Créateur. En conséquence, sa vie a beaucoup plus de valeur que la vie de tous les individus composant l'humanité entière. Au sujet de Jésus-Christ, l'Évangile selon Jean révèle, je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Jean 1 au verset 1 à 3 et Jean 1 au verset 10 et 11. Ainsi, l'être qui coexistait avec le Père de toute éternité abandonna de son plein gré, voir Philippiens 2 au verset 7, sa gloire divine et sa puissance pour devenir notre sauveur. Mais au commencement, c'est le Christ en personne qui créa l'humanité et tout ce qui existe, à l'exception du Père, bien sûr. Éphésiens 3 nous dit que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Verset 9, version Osterwald. Il n'est pas étonnant que la Bible parle du sang précieux de Jésus-Christ, car il est question du sang de l'être suprême qui exécuta pour le Père la création des cieux, de la terre et de tout ce qui existe. Lorsque nous partageons le vin rouge qui symbolise l'acte suprême d'humilité de notre Créateur, nous devons être envahis d'un sentiment profond d'appréciation et de vénération envers notre Dieu et notre Sauveur. Si nous nous sommes réellement repentis de nos péchés et si nous acceptons le Christ en tant que notre Sauveur, nous pouvons avoir une foi totale que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1 au verset 18 à 19. Étape 2. La fête des pains sans levain. Nous sommes justifiés, pardonnés de nos péchés passés et en règle avec Dieu par le sacrifice pascal du Christ. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5 au verset 9. Quoique étant pardonnés de nos péchés passés, comment pouvons-nous devenir des vainqueurs et éliminer complètement le péché de notre vie? La fête des pains sans levain nous donne la réponse en décrivant l'étape suivante du plan divin. Juste après avoir ordonné la Pâque, Dieu dit à Moïse : « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. » Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode 12, au verset 15 à 17. Notez-le. De même que la fête des pains sans levain eut lieu lorsque Dieu délivra Israël d'Égypte, symbole ou type du péché, de même le symbolisme de cette fête décrit les véritables chrétiens qui sortent de l'Égypte spirituelle, du péché. Le levain est un symbole du péché. Lorsque Jésus mit en garde les disciples contre les enseignements hypocrites des pharisiens, il leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16 au verset 6. Le levain fait littéralement lever la pâte et la fait gonfler, tout comme une attitude pécheresse ou le désir d'agir à notre guise, qui provoque en nous un gonflement et le désir de faire ce que nous avons envie de faire. Le levain a tendance à se développer naturellement dans la pâte, tout comme le péché non maîtrisé aurait tendance à se répandre au sein de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens 5, au verset 6 à 7. Beaucoup de chrétiens croient que nous sommes sauvés lorsque nos péchés sont pardonnés. Il est vrai qu'à ce moment-là, nous sommes délivrés de l'amende de la mort que nous encourions à cause de nos péchés passés. Mais nous pouvons faire une rechute et perdre notre salut. Hébreux 6 au verset 4 à 8, Hébreux 10 au verset 26 à 31 et 1 Corinthiens 9 au verset 27. Le salut est un processus. Nous sommes aujourd'hui en train d'être sauvés. 1 Corinthiens 1 au verset 18. Et nous serons sauvés définitivement si nous persévérons jusqu'à la fin. Matthieu 24 au verset 13. L'apôtre Paul explique. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, au verset 10. Si nous observions uniquement la Pâque, le plan divin serait incomplet. Nous laissons Jésus cloué à sa croix et l'histoire s'arrête là. Rappelez-vous que notre Sauveur a été ressuscité et c'est par sa résurrection que nous serons sauvés. Jésus a dit à ses disciples, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Matthieu 19, au verset 17. Il a également dit, « Repentez-vous. » Marc 1, au verset 15. C'est-à-dire, détournez-vous complètement de vos péchés et marchez dans la voie de la justice. En d'autres termes, Dieu demande que nous fassions alliance avec lui pour chasser le péché de notre vie, pour cesser d'enfreindre sa loi spirituelle afin de l'observer. Il veut que nous le suivions en observant cette dernière. L'apôtre Paul écrivit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, au verset 8 à 9. Certains diront que ces versets prouvent que nous n'avons besoin de rien d'autre que de recevoir le don gratuit de Dieu, et qu'il n'est plus nécessaire d'observer la loi divine. Cela n'est qu'un raisonnement à courte vue, lorsque nous lisons le verset suivant, dans lequel l'apôtre Paul explique que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 10. En réalité, notre façon de vivre doit changer afin de passer de la désobéissance à l'obéissance envers Dieu. Bien sûr, Dieu sait que nous n'y parviendrons pas à la perfection tant que nous sommes encore charnels. Romains 7 au verset 18 à 24 et 1 Jean 1 au verset 8 à 10. Mais il veut que nous croissions dans son caractère à travers un processus qui requiert des efforts et des victoires sur le péché. Voir 1 Corinthiens 9 au verset 24 à 27 et Apocalypse 2 au verset 11 ainsi qu'Apocalypse 3 au verset 21 et Apocalypse 21 au verset 7. Notre vie de péché doit être crucifiée avec Christ. Galates 2 au verset 20. Lors du baptême, notre vieille nature est symboliquement ensevelie avec le Christ. Ensuite, elle se relève de la tombe liquide du baptême en tant que symbole d'une résurrection à une nouvelle vie en Christ. Cela étant accompli, nous devrions dès lors vivre selon la voie divine. La fête des pains sans levain dépeint le processus de ce nouveau mode de vie qui est exempt du péché. C'est ainsi que l'apôtre Paul commanda ce qui suit à l'église non-juive de Corinthe. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 5, au verset 8. En conséquence, la fête des pains sans levain est également un commandement du Nouveau Testament. En outre, ce commandement fut ordonné à une église non-juive du début. Ainsi, en l'occurrence, n'était-il aucunement question de judaïsme? Au verset 7, l'apôtre Paul associe la fête des pains sans levain à la Pâque, qui la précède immédiatement. Cela est logique, puisque la Pâque traite du pardon des péchés dont nous nous sommes repentis, et que la fête des pains sans levain traite de ce qu'il faut faire ensuite, c'est-à-dire de notre détermination avec l'aide de Dieu, de croître dans la grâce et dans la connaissance à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, au verset 13. Comment les chrétiens devraient-ils observer cette fête? Chaque année, à son approche, les véritables pratiquants du christianisme du Nouveau Testament ôtent le levain, ainsi que le pain et les autres produits qui ont levé, de leur maison et de ce qui leur appartient. Ensuite, durant 7 jours, ils ne mangent rien qui soit levé. Précisons qu'il n'y a rien de mauvais dans le levain physique. Durant cette fête, le levain n'est qu'un symbole représentant le péché. Puis, alors que les jours de la fête passent, s'ils s'aperçoivent qu'un peu de levain est resté chez eux sans qu'ils l'aient remarqué précédemment, ils s'empressent de l'éliminer également. Exode 13, au verset 7. tout en prenant soin de faire ce nettoyage de printemps dans leur demeure, ils se souviennent que, de même qu'une miette de pain levée qui pourrait tomber et se dissimuler dans un recoin ou dans un creux de leur habitation, de même le péché peut se cacher dans un aspect inattendu de leur vie. En fait, il arrive souvent que l'on soit surpris des endroits les plus insolites au creux desquels on découvre du levain. Les chrétiens devraient demander à Dieu de les nettoyer complètement et de les laver spirituellement en leur montrant où le péché se trouve encore en eux. Pendant 7 jours, 7 est le chiffre de la perfection, les véritables pratiquants du christianisme du Nouveau Testament n'entrent pas le levain dans leur demeure. Ils se concentrent sur l'élimination totale du péché de leur vie. En observant ce que Dieu a ordonné, ils se souviennent qu'ils sont responsables devant Dieu de vaincre leur nature, ainsi que le monde et Satan le diable. La fête des pains sans levain signifie tout cela. Étape 3, la Pentecôte. Comme nous l'avons vu, chaque jour saint ordonné par Dieu est bâti sur le précédent et illustre le grand plan magistral que Dieu a conçu pour l'humanité. La Pâque dépeint notre acceptation du corps brisé et de l'épanchement du sang du Christ, notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. La fête des pains sans levain illustre la nécessité de rejeter le péché et de croître dans la grâce et dans la connaissance. En montrant comment les chrétiens du Nouveau Testament peuvent surpasser et aller au-delà des Israélites charnels de l'Ancien Testament, l'auteur inspiré de l'Épître aux Hébreux nous dit, je cite, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. » Hébreux 4, versets 1 et 2. En recevant le Saint-Esprit promis, les chrétiens du Nouveau Testament peuvent obtenir la véritable foi en Dieu et une certaine mesure du caractère divin pour les aider à vaincre le péché et à croître dans la grâce et dans la connaissance. En parlant de cela, l'apôtre Pierre dit « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » De Pierre 1 au verset 4. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu place sa propre nature en nous, son caractère divin, si nous marchons avec lui et si nous croissons spirituellement. C'est ce qui nous rend capables de vaincre le péché, contrairement aux anciens Israélites qui n'avaient jamais eu la promesse du Saint-Esprit. Arrivant peu de temps après la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte ou fête des prémices, Exode 34 au verset 22, nous permet de comprendre que Dieu n'appelle qu'une petite récolte spirituelle de prémices aujourd'hui, mais qu'il bénira cette petite récolte en nous fortifiant avec son esprit, afin que nous puissions vaincre et croître spirituellement, quoique vivant dans ce présent siècle mauvais. Galates 1 au verset 4. En ordonnant aux anciens Israélites d'observer la fête des prémices, Dieu leur demandait d'apporter au sacrificateur une gerbe des prémices de la moisson de printemps. Lévitique 23 au verset 10. Ce dernier devait agiter cette gerbe au cours d'une cérémonie solennelle afin qu'elle soit agréée par Dieu et que cette moisson printanière soit bénie. Spirituellement, la cérémonie symbolisait Jésus ressuscité que le Père agréa en tant que prémisse, premier être humain à naître de Dieu par une résurrection. La cérémonie de la gerbe agitée avait lieu le dimanche qui suivait immédiatement le sabbat hebdomadaire qui tombait au cours de la fête des pains sans levain. Verset 11. Si vous comparez Matthieu 28 au verset 9 et Jean 20 au verset 17, vous constaterez que le Christ en personne se présenta auprès du Père après sa résurrection qui eut lieu le soir précédent. 1 Corinthiens 15 au verset 20 et 23 et Romains 8 au verset 29, ainsi que Colossiens 1 au verset 15 et 18. Les Israélites devaient compter 50 jours à partir de ce dimanche. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités d'un côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Lévitique 23, versets 15 à 17. La Pentecôte signifie littéralement 50e. En comptant exactement 50 jours, à partir d'un dimanche déterminé, les Israélites étaient obligés de tomber sur un autre dimanche, 7 semaines plus tard, sans tenir compte de la date dans le mois. Si la Pentecôte avait dû être observée à une date précise du mois, la Bible l'aurait clairement exprimée. Et il n'aurait pas été nécessaire de compter. Ensuite, le jour de la Pentecôte ou des prémices, il fallait offrir 2 pains. Ces 2 pains sont les prémices à l'Éternel, Lévitique 23 au verset 17. Ces prémices de pain symbolisaient manifestement le peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, puisque les prophètes de l'Ancien Testament avaient également reçu le Saint-Esprit. Voir 1 Pierre 1 au verset 10 à 11. Les prémices nous enseignent que Dieu n'appelle qu'un petit nombre de personnes, les prémices à notre époque. Comme nous l'avons dit, la moisson printanière précoce en Israël était petite par rapport à la grande récolte d'automne. La comparaison est la même du point de vue spirituel. Jésus-Christ a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, au verset 13 et 14. De son côté, l'apôtre Jean cite le grave avertissement du Christ. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Selon lesquels Dieu essaie de sauver actuellement le monde. Le véritable Dieu de la Bible n'essaye pas de faire une telle chose. À supposer que cela soit le cas, plusieurs milliards d'êtres humains ayant vécu des siècles auparavant, comme par exemple en Inde, en Chine, en Afrique ou ailleurs, auraient dû être appelés au christianisme. Mais la vaste majorité d'entre eux ont vécu et sont morts sans avoir jamais entendu le nom du Christ. La fête de la Pentecôte ou des prémices nous rappelle, année après année, que ces quelques appelés, à notre époque, ne sont que des prémices et qu'une moisson d'âmes, de loin beaucoup plus importante, aura lieu plus tard, comme nous allons le voir. En lisant que le Saint-Esprit fut répandu au cours de la première Pentecôte du Nouveau Testament, nous devons admettre que, quoique peu nombreux, nous qui sommes parmi les appelés de cette époque, nous possédons la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre divine et pour vaincre notre propre nature avec une aide qui n'avait jamais été accordée auparavant aux êtres humains. L'apôtre Pierre a proclamé, je cite, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte 2 au verset 38 et 39. Ensuite, dans Romains 5 au verset 5, nous pouvons lire les paroles inspirées de l'apôtre Paul. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. De quel amour répandu par le Saint-Esprit s'agit-il? L'apôtre Jean déclare clairement, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5 au verset 3. Par le Saint-Esprit, nous recevons l'amour spirituel de Dieu, la sorte d'amour dont nous avons besoin pour accomplir la grande loi divine spirituelle, les 10 commandements, et édifier le véritable caractère divin. Le jour de la Pentecôte nous rappelle annuellement que nous avons été appelés, chacun individuellement, et que la force qui est en nous, par l'Esprit de Dieu, nous permet d'affermir, comme dit l'apôtre Pierre, votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1 au verset 10. Étape 4. La fête des trompettes. Les 3 premières fêtes commandées par Dieu ont lieu au printemps. Elles dépeignent chacune des aspects spirituels du plan divin. Les 4 dernières fêtes tombent ensemble au 7e mois, le mois de la finalité ou de l'achèvement. Et elles décrivent l'achèvement du plan divin sur la terre. La fête des trompettes s'observe le premier jour du 7e mois du calendrier sacré. Elle nous fait entrer dans les derniers événements du plan divin. Elle décrit l'intervention massive de Dieu dans les affaires humaines, dont le point crucial sera le retour du Christ en tant que roi des rois. Notez l'ordre que Dieu donna à l'ancien Israël. Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Lévitique 23, au verset 24. En Israël, la sonnerie de trompette était employée comme un signal de rassemblement ou comme un signal de guerre. Nombre 10, au verset 1 à 10. En conséquence, venant juste avant les événements finaux de cet âge, la fête des trompettes décrit l'époque bientôt à venir de bouleversements mondiaux, de chaos et de guerres qui auront lieu juste avant le retour du Christ. Il est à noter que les trompettes servaient également à annoncer le couronnement de nouveaux rois, comme ce fut le cas pour le roi Salomon. 1 roi 1 au verset 34 et 39. Et le règne paisible de Salomon venant après le règne belliqueux de son père David était un type du règne à venir du prince de la paix, Jésus-Christ. Voir 1 roi au verset 4 verset 25 et 1 chronique 28 au verset 5. L'ère mauvaise du gouvernement humain prendra fin avec le moment critique où l'extinction totale du genre humain pourrait se produire. En réalité, la Bible a beaucoup à dire au sujet d'une guerre mondiale atroce qui englobera toute la terre dans un proche avenir. Pour en savoir davantage sur cette horrible époque appelée la Grande Détresse, Matthieu 24 au verset 21. Et sur ce qui va se passer, demandez-nous notre brochure gratuite intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Heureusement, avant qu'il ne soit trop tard, l'intervention divine empêchera l'anéantissement complet de l'humanité. Matthieu 24 au verset 22. Le jour du Seigneur ne commencera pas dans la paix et dans la joie. Au contraire, le Dieu Tout-Puissant imposera la paix à une humanité rebelle, en brisant d'abord son entêtement. Notre Créateur interviendra pour montrer sa puissance et pour rappeler à la civilisation indocile qu'il est, lui, le dirigeant suprême des cieux et de la terre. Notez la prophétie de Joël. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël 2, au verset 1. Ici, la sonnerie de trompette est une alarme annonçant que le jour du Seigneur est proche. En décrivant l'époque au cours de laquelle les Israélites seront ramenés de captivité au second avènement du Christ pour regagner le pays d'Israël, le prophète Ésaïe a proclamé « En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Ésaïe 27 au verset 13. Bien sûr, il y aura également les différents fléaux annoncés par des trompettes, comme cela est décrit dans Apocalypse 8 et 9. Après la grande détresse, ces fléaux fantastiques secoueront littéralement sur terre, comme jamais auparavant. À un moment donné, lorsque la bête et le faux prophète, voire Apocalypse 13 au verset 15 à 18, auront achevé l'anéantissement de millions de vies humaines, au moyen d'armes ultra-modernes. Dieu interviendra pour montrer sa puissance et rappeler à la civilisation rebelle qu'il est le dirigeant ultime des cieux et de la terre. Et les 16 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8 au verset 6 et 7. En fin de compte, Jésus-Christ interviendra miraculeusement pour sauver l'humanité rebelle et pour apporter une paix véritable au monde. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11 au verset 15. Ainsi, le Christ reviendra à la septième trompette. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Matthieu 24, versets 29 à 31. Quelle est la signification de ce dernier verset mentionnant que le Christ enverra ses anges pour rassembler ses élus? En se référant au retour du Christ à la dernière trompette, l'apôtre Paul a écrit « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » 1 Corinthiens 15, au verset 20. Mais remarquez ce que Paul écrit plus loin. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est-à-dire le premier des prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, c'est-à-dire le reste des prémices, lors de son avènement. Versets 21 à 23. Et quand cela arrivera-t-il? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Versets 51 et 52. Qu'y a-t-il de plus encourageant que cette révélation fantastique? Êtes-vous capable d'imaginer une lumière si éclatante qu'aucun être humain ne pourrait supporter? C'est pourtant sous cet aspect que le visage du Christ ressuscité paraîtra. Lorsqu'il viendra dans la gloire, pouvez-vous imaginer la sonnerie de la trompette retentissante qui secourra littéralement la terre au moment où le Christ reviendra en tant que roi des rois? Pouvez-vous imaginer la résurrection des saints montant au ciel pour y rencontrer le Christ, puis redescendant en sa compagnie sur le mont des Oliviers, afin de gouverner cette planète rebelle sous son autorité? Voir Zacharie 14 au verset 1 à 4 et au verset 9 et Apocalypse 2 au verset 26 et 27. Toutes ces choses auront lieu à la septième trompette. Et quoique la fête des trompettes décrive des bouleversements terribles, des guerres et des fléaux qui s'abattront à la fin du règne de la civilisation humaine, elle décrit également la glorieuse intervention du Dieu créateur qui restaurera finalement l'ordre et procurera une paix durable et la joie à un monde éprouvé qui sera enfin disposé à écouter Dieu et à suivre ses voies justes. Étape 5. Le jour des expiations. Après l'énorme secousse infligée aux nations et le retour du Christ dans la gloire, l'étape suivante du plan magistral de Dieu sera de permettre aux peuples de la terre d'être en accord avec Dieu. Ensuite, ils seront capables d'apprendre de leur plein gré les voies divines et d'être bénis. Aujourd'hui, les nations sont encore rebelles envers Dieu et ses voies, car elles ont été séduites. Dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, Dieu a créé tous les êtres humains moralement libres. Il savait que l'être humain chercherait désespérément à faire les choses à sa façon, avant d'en arriver à apprendre que la voie divine est la seule qui soit bonne. En conséquence, Dieu a permis à l'homme d'être séduit, au point d'être complètement coupé de Dieu, pendant les 6000 années d'histoire humaine. Dans sa parole révélée, Dieu dit clairement que Satan, le diable, est le dieu du monde actuel. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 au verset 3 à 4. L'apôtre Paul a aussi écrit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Satan le diable, le prince du monde, comme Jésus l'a appelé, Jean 14, verset 30, est continuellement à l'œuvre pour séduire l'humanité. Étant le prince de la puissance de l'air, il diffuse, telle une station de radio ou de télévision. Mais il diffuse spirituellement de mauvaises attitudes et de mauvaises idées. Il fait en sorte que l'humanité ait l'impression que Dieu est mort, ou irréel, ou éthéré, ou qu'il ne soit qu'une force aveugle, sortie d'on ne sait où. Satan fait croire que les êtres humains n'ont pas besoin d'obéir à la loi divine, ni d'observer littéralement les 10 commandements. Ni les saints sabbats hebdomadaires, ni les fêtes annuelles que le Christ et les premiers apôtres ont respectées, en nous laissant un exemple à suivre. L'apôtre Jean a écrit: Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, au verset 9. L'apôtre Pierre fut inspiré à nous avertir. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, au verset 8 et 9. En conséquence, au commencement du règne du Christ, Satan devra être banni pour permettre aux hommes de vivre en paix et dans l'harmonie. Dans Lévitique 23, au verset 27 et 28, remarquez le commandement concernant le jour des expiations. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Ce jour fait partie des statuts donnés à perpétuité au peuple de Dieu. Comme nous l'avons déjà mentionné, Paul, l'apôtre des Gentils, a même observé le jour des expiations sur la mer Méditerranée à bord du navire qui l'emmenait prisonnier à Rome, des années après que toutes ces choses aient supposément été clouées sur la croix. Acte 27 au verset 9. Dans Lévitique 16, on trouve une indication claire de la signification réelle du jour des expiations. Il est fait mention d'un rituel de l'Ancien Testament où deux boucs devaient être présentés au souverain sacrificateur. En Israël, le tirage au sort était un appel à Dieu pour qu'il tranche au sujet de certaines décisions. Ainsi, Aaron devait tirer au sort afin de faire un choix avec chacun des deux boucs. Lévitique 16 au verset 8. L'un d'eux représentait l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui plus tard abandonna tout pour devenir notre sauveur. 1 Corinthiens 10 au verset 4. L'autre bouc représentait Azazel, qui est un terme comme beaucoup de références hébraïques l'expliquent, signifiant l'adversaire, Satan le diable. Le bouc représentant l'Éternel devait mourir. Dieu dit à Aaron de l'offrir en sacrifice d'expiation. Lévitique 16 au verset 9. Tout comme Jésus qui donna sa vie pour nos péchés. Mais pour ce qui est du bouc adversaire, Dieu ordonna. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Versets 21 et 22. Ensuite, l'homme qui devait conduire dans le désert ce bouc symbolisant Satan devait se laver le corps et même les vêtements. Verset 26, car symboliquement, il avait été en contact direct avec l'incarnation du mal, Satan le diable. Cet homme avait reçu pour tâche d'isoler Satan du peuple de Dieu. Il devait conduire le bouc adversaire et l'abandonner dans le désert, au loin, afin que celui qui symbolisait Satan ne puisse plus faire de tort ni séduire le peuple de Dieu. Quand devait avoir lieu cette cérémonie? C'est ici pour vous une loi perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois, verset 29. Quoique les anciens Israélites sachent que cette cérémonie faisait partie de l'observance du jour des expiations, peu d'entre eux saisissaient la véritable portée spirituelle qu'elle revêtirait pour les chrétiens du Nouveau Testament. D'ailleurs, comment auraient-ils pu comprendre puisqu'ils étaient déjà aveuglés quant à l'identité du premier bouc, le Messie, qui vient mourir sur terre pour leurs péchés? Le Nouveau Testament montre que c'est ce qui va se passer exactement lorsque le Christ reviendra. Le retour de Jésus comme roi des rois est décrit dans Apocalypse 19 au verset 11 à 21. Ensuite, dans Apocalypse 20, nous lisons qu'un ange puissant aura pour mission d'enlever Satan. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Versets 2 et 3. Il est clair que Satan, Azazel ou l'adversaire, sera séparé de l'humanité, de telle sorte qu'il ne pourra plus séduire les êtres humains durant les 1000 ans du règne du Christ. C'est pourquoi les hommes commenceront à accepter les voies divines. n'étant plus sous influence satanique. C'est pour cette raison que durant le règne glorieux du Christ, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11 au verset 9. Plus loin, Ésaïe explique comment la période d'aveuglement des hommes cessera complètement. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25 au verset 7 et 8. Ainsi, le système de diffusion de Satan deviendra inopérant et l'aveuglement de l'humanité cessera. L'homme pourra être d'accord avec Dieu. Le Christ a payé à notre place l'amende requise pour nos péchés. Mais Satan, le diable, méritera le bannissement définitif au milieu d'un désert symbolique ou au fond de l'abîme. Dieu est juste. Il mettra sur la tête de Satan l'énorme culpabilité qui est la sienne pour avoir influencé les hommes à se tourner contre Dieu, en leur faisant croire par des mensonges que Dieu est injuste et que ses lois et sa justice ne sont pas bonnes. En fin de compte, l'humanité apprendra à apprécier Dieu et ses voies pour aimer et adorer sincèrement le véritable Dieu de la Bible. C'est alors que le pardon ou l'expiation des péchés humains sera complet. Étape 6, la fête des tabernacles. Après que Satan aura quitté la scène, l'étape suivante du plan magistral de Dieu consistera dans le règne millénaire de Jésus-Christ en tant que roi des rois. Cela implique que Jésus-Christ et tous les saints ressuscités enseigneront au monde entier les voies divines. Alors commencera la grande moisson d'automne des saints, l'époque au cours de laquelle tous les êtres humains vivants apprendront les voies divines et auront l'occasion, sans la séduction satanique, de servir le Créateur et de lui obéir. Dans Lévitique 23 au verset 34, Dieu ordonna cette fête à l'ancien Israël. Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. » Selon ce passage, la fête des tabernacles devait donc durer 7 jours. Elle représente le 7e jour millénaire, ou une période de 1000 ans, de l'histoire humaine qui vient bientôt. Dans Lévitique 23, elle est appelée la fête des tabernacles, ou des cabanes, pour rappeler aux Israélites qu'ils n'étaient que des résidents temporaires dans le pays. Spirituellement, cela rappelle aux chrétiens que nous sommes, comme notre père Abraham, des étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11 au verset 13, et que nous attendons le royaume de Dieu. Dans Exode 23, nous trouvons une fête d'automne décrite comme la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Verset 16. Ainsi, cette fête illustre et célèbre également la grande moisson d'automne en Israël, ce qui représente pour les chrétiens la grande moisson spirituelle d'âmes qui seront recueillies durant le règne millénaire du Christ. Comme nous l'avons déjà vu, la terre sera à cette époque remplie de la connaissance de l'Éternel. Ésaïe 11 au verset 9. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Il y aura une effusion de paix et de joie, comme le monde n'a jamais connu. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35 au verset 9 à 10. L'apôtre Pierre nomma cette période le temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Acte 3 au verset 21. Dans l'Ancien Testament, il y a littéralement de nombreuses prophéties qui parlent de l'époque du retour du Christ, du monde entier qui commencera à comprendre, ainsi que de la paix permanente et de la sécurité qui couvriront la terre. Parce que les hommes apprendront les lois de Dieu et qu'ils pratiqueront son mode de vie. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, au verset 2 à 4. Lorsque les Israélites modernes reviendront de leur captivité des temps de la fin, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Ésaïe 61, au verset 4 et 7. Le règne millénaire du Christ est caractérisé dans cette prophétie de Jérémie. Je cite: « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, au verset 31 à 33. En effet, la magnifique loi spirituelle, les 10 commandements, n'a jamais été abolie. Mais ces commandements ont été amplifiés par Jésus-Christ, et même rendus plus exigeants. De telle sorte que nous devons non seulement observer la lettre, mais également l'intention spirituelle de la loi divine. C'est ainsi que nous ne devons pas nous contenter de ne pas tuer, mais encore de nous retenir de toute animosité, de haine et d'une attitude meurtrière. Matthieu 5, au verset 21 et 22. Nous avons appris à ne pas commettre l'adultère, mais il ne faut même pas regarder une femme pour la convoiter. Verset 27 et 28. Durant le millénium, les lois de Dieu seront inscrites dans le cœur et dans l'esprit de son peuple, tout autour de la terre. Les lois divines sont en effet l'expression du caractère de Dieu, ce caractère qu'il veut que nous développions pour devenir des rois et des sacrificateurs à jamais dans son royaume. Cette bénédiction sera accordée à toute l'humanité durant la merveilleuse fête de la récolte qui aura lieu au cours des 1000 ans du règne du Christ sur cette terre. Apocalypse 20 nous dit: Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 6. C'est maintenant que tous les véritables chrétiens doivent se préparer à étudier et à pratiquer la loi divine, pour être capables d'enseigner ces choses aux autres dans le futur gouvernement mondial du Christ. L'apôtre Paul a averti les véritables chrétiens en ces termes: Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, au verset 2 à 3. Les véritables chrétiens et les juifs devraient-ils être les seuls à observer la fête des tabernacles? Notez Zacharie 14, au verset 1 à 4. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Lisez ensuite le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Voyez maintenant les versets 16 à 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, Si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Les versets ci-dessus devraient suffire à prouver que toutes les nations apprendront à observer la fête des tabernacles, sous le règne de Jésus-Christ. Même les Égyptiens, qui pourraient être les premiers à manifester leur réticence envers une chose juive, apprendront à observer la fête des tabernacles ainsi que toutes les fêtes divines commandées. Étape 7. Le dernier grand jour. Aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque actuelle, est-ce le seul jour de salut? L'écrasante majorité de ministres, de prêtres et de chrétiens traditionnels répondront par un oui retentissant. Mais ces mêmes personnes ne réalisent pas la profondeur, la largeur et l'ampleur de l'énorme séduction exercée par Satan le diable sur l'humanité confuse. Comme nous l'avons vu, la Bible révèle clairement que Satan a séduit toute la terre. Apocalypse 12, au verset 9. Répétons que Satan est le dieu de cet âge actuel. 2 Corinthiens 4, au verset 3 et 4. Généralement, les gens suivent les voies de Satan et non celles de Dieu. Le dernier grand jour dépeint l'étonnante vérité selon laquelle Dieu n'essaye pas de sauver le monde à notre époque. Si le Dieu suprême qui a créé l'univers était vraiment en train d'essayer de sauver l'humanité à l'heure actuelle, il y parviendrait sans aucun doute. Des milliards de gens en Asie, en Afrique et ailleurs pourraient devenir de bons chrétiens en peu de temps. Cependant, force est de constater que l'immense majorité des individus qui, dès la création du premier couple, a traversé l'histoire, n'a jamais connu, ni même eu l'occasion de découvrir une forme quelconque de christianisme. Et il en est de même de nos jours. Quelle est la réponse réelle à ce dilemme? Le Fils de Dieu a déclaré, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Jean 10 au verset 1 et 7. Et il inspira l'apôtre Pierre à déclarer, je cite, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4 au verset 11 à 12. Ainsi, ou bien vous acceptez le Christ, le véritable Christ de la Bible, ou bien vous ne l'acceptez pas. Si vous l'acceptez en tant que votre Sauveur et Seigneur, vous devrez vous soumettre à lui et le laisser diriger votre vie. Comme Jésus lui-même l'a ordonné, vous respecterez les 10 commandements dans votre manière de vivre. Matthieu 19 au verset 17. Vous laisserez le Christ vivre sa vie d'obéissance en vous à travers le Saint-Esprit. Galates 2 au verset 20. Par contre, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas chrétien et vous pouvez vous-même être aveugle. C'est aussi simple que cela. L'écrasante majorité de tous les êtres humains a été aveugle quant à la connaissance du véritable Dieu et du véritable Christ. Or la Bible dit, devant Dieu il n'y a point de favoritisme. Romains 2 au verset 11. Et l'apôtre Pierre a déclaré, lorsque Dieu se mit à appeler quelques païens à la repentance. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Acte 10, au verset 34. Dieu se contredit-il? Bien sûr que non, car Dieu n'a jamais dit qu'il essayait de sauver tout le monde actuellement. Dieu a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, au verset 9. La volonté divine est que tous parviennent à la repentance, mais il est manifeste que très peu d'individus y parviendront à notre époque. Notez également ce que Paul déclare. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il s'agit tout simplement d'une question de temps. Selon le plan divin, comme nous allons le voir, tous les êtres humains qui ont jamais vécu auront l'occasion de comprendre le plan magistral et le dessein de Dieu. Au moment désigné par lui, la vaste majorité acceptera la vérité divine lorsque leurs yeux s'ouvriront. Non, Il n'y a pas une seconde chance quelconque comme certains l'objectent. Ce sera la première opportunité pour ces individus de comprendre le véritable Dieu, le véritable Jésus et le grand dessein. La Bible parle d'une époque de jugement pour toute l'humanité. Ce terme jugement ne veut pas dire uniquement condamnation, mais un temps de décision, un temps de mise à l'épreuve et d'entraînement, voir 1 Pierre 4 au verset 17. Notez les paroles du Christ au sujet des villes de son époque, qu'il avait rejetées, lui et son enseignement. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Matthieu 11, versets 21 et 22. Les villes païennes qui n'ont jamais entendu parler du Christ seront traitées moins rigoureusement au jour du jugement. Remarquez que même la ville de Sodome faisait partie de cette catégorie. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Verset 24. Si Dieu jugeait ses peuples d'après le même standard que les autres, et c'est ce que la Bible révèle, alors les païens du monde antique n'auraient aucune chance d'obtenir la vie éternelle, puisqu'ils n'auront pas accepté le Christ comme sauveur ni obéi aux voies divines. La seule solution est qu'ils auront, lors d'une période de jugement à venir, l'opportunité de comprendre réellement le grand dessein divin, d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, et à ce moment-là, d'être jugés d'après la façon dont ils auront répondu lors de cette véritable première occasion d'obtenir le salut. La Bible indique-t-elle qu'une telle époque va venir? La réponse est affirmative dans Apocalypse 20, après la description du millénium et de la courte période qui suivra lorsque Satan sera relâché pour un peu de temps. Verset 3. Dieu décrit une époque de jugement pour ceux qui étaient déjà morts avant l'établissement du millénium et qui n'avaient jamais été convertis. Après la description d'un grand trône blanc, l'apôtre Jean écrivit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Versets 12 et 13. Si ces morts se tiennent devant le trône, cela implique qu'il s'agit d'une résurrection. Remarquez également que le verset 12 dit que les livres furent ouverts. Le mot grec « biblia » dont nous tirons le mot « Bible » est celui qui a été utilisé dans ce passage. Ainsi, pour la première fois, ces individus ouvriront leur esprit et leur cœur à la Bible. Ils auront l'opportunité d'obtenir le salut et d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Au cours de cette période de jugement du grand trône blanc, ces gens seront des appelés. Satan aura de nouveau été banni. Leur esprit sera ouvert à la véritable compréhension. À cette époque de jugement, même les habitants de Sodome ainsi que des centaines d'autres villes païennes ou séduites de l'ancien temps obtiendront probablement un jugement moins sévère que celle qui était contemporaine du Christ. Car ces anciens païens n'avaient jamais rien compris sur Dieu, ni au sujet de ses voies. Ils ne peuvent donc pas être tenus responsables de leur aveuglement. D'innombrables millions d'hommes et de femmes des temps passés pourront saisir la vérité lorsqu'ils comprendront. Ils deviendront peut-être de meilleurs chrétiens, de meilleurs serviteurs de Dieu que certains d'entre nous aujourd'hui, qui prenons la précieuse vérité divine pour acquise et qui ne sommes pas aussi zélés que nous devrions l'être. Dieu ressuscitera des centaines de millions d'individus qui ont vécu et qui sont morts avant la venue du Christ. Il y a également les milliards de gens qui ont vécu et qui sont morts depuis Jésus-Christ, ou qui vivent maintenant, mais dont les yeux sont aveuglés à la connaissance de Dieu et de son dessein. Tous ces gens seront amenés à la véritable connaissance et à la repentance. Ils recevront le Saint-Esprit, la nature même et le caractère de Dieu, qu'ils recevront après s'être repentis et avoir été baptisés, comme nous actuellement. Puis, pendant plusieurs années, ils auront l'occasion de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De Pierre 3, au verset 18. Ils auront l'opportunité d'obtenir le salut, la vie éternelle dans le royaume et dans la famille de Dieu. Leur appel n'est qu'une question d'époque plus tardive par rapport à la nôtre, mais il est certain qu'elle viendra. En fin de compte, chaque être humain aura eu une véritable opportunité de salut. Ainsi, le septième jour saint divin, ce mystérieux huitième jour qui suit immédiatement la fête des tabernacles, mais qui est une fête distincte, Lévitique 23 au verset 36, décrit cette fantastique époque après le millénium, lorsque toute l'humanité aura finalement l'opportunité de comprendre la vérité. Il est manifeste que Jésus faisait allusion à cette époque dans Jean 7. Je cite, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Versets 37 et 38. Lors du jugement du grand trône blanc, celui, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu, auront les yeux qui s'ouvriront, et il aura l'occasion de répondre à Dieu et de recevoir son Saint-Esprit. Avec cette septième fête commandée, le panorama du plan divin est maintenant complet. Lorsque nous réalisons la merveilleuse sagesse et la miséricorde divine dans ce tableau, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul dans Romains 11, versets 32 et 33, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Conclusion. Obéir au plan divin. Si le Dieu vivant est en train d'ouvrir votre esprit à sa vérité, vous avez la responsabilité d'agir, Jacques 1 au verset 22 et Jacques 4 au verset 17, afin de vous aider à le faire. Sachez que l'Église du Dieu vivant qui a édité cette brochure a des ministres ordonnés, des congrégations locales et des petits groupes de membres de par le monde. Ces membres s'assemblent le jour du sabbat et lors des jours saints annuels pour assister au culte. Si vous êtes intéressé à observer ces jours saints avec nous, veuillez écrire ou téléphoner au bureau de l'Église du Dieu vivant, le plus proche de chez vous. Nos adresses figurent à la fin de cette brochure. Sachez aussi que personne ne vous contactera à moins que vous nous le demandiez. Si vous le souhaitez, et dans la mesure du possible, l'un de nos représentants prendra rendez-vous à l'heure et à l'endroit qui vous conviennent. Nous pouvons vous assurer qu'il n'exercera aucune pression sur vous. En fait, notre ministre ou notre représentant local pourra vous suggérer d'avancer plus loin dans votre étude, de prendre votre temps et d'être sûr de vivre de toute parole qui vient de Dieu. Si vous commencez à assister aux assemblées en compagnie du peuple de Dieu et à vraiment observer ces sabbats hebdomadaires et annuels, vous constaterez combien vous croîtrez spirituellement en assistant aux assemblées, en écoutant la vérité divine au cours du sabbat et en ayant l'opportunité de fraterniser, vous deviendrez un pionnier spirituel. Vous démontrerez à votre Créateur que vous désirez cheminer dans la foi, obéir à sa parole inspirée en dépit des obstacles possibles et de l'adversité. En pratiquant de la sorte, vous vous préparerez à la première résurrection, la meilleure résurrection. Hébreux 11, verset 35. Et si vous restez ferme jusqu'à la fin, vous entendrez ces paroles encourageantes de Jésus-Christ. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25 au verset 21. Fin.